Décryptage. Anne Corpet.
L'Assemblée générale de l'ONU a ouvert ses portes à New York, un rendez-vous annuel qui n'avait pas pu avoir lieu en présence des chefs d'État depuis 2 ans du fait de la pandémie de Covid et qui se tient cette année dans un contexte de lourdes divisions sur fond de guerre en Ukraine, de crise climatique et de tensions sociales partout dans le monde. Notre monde fait face à de gros problèmes, a reconnu Antonio Guterres en ouvrant cet après-midi les débats et il a ajouté « Nous avons besoin d'espoir et plus encore, nous avons besoin d'action. » Mais les fractures internationales s'approfondissent au gré des crises et rien ne permet d'espérer que ce temps fort de la diplomatie multilatérale conduise à des avancées concrètes. Les Nations Unies forment une enceinte précieuse et l'Assemblée générale est une instance rare où chaque nation pèse du même poids. Mais à quoi sert cette grande messe annuelle? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui dans Décryptage. Bienvenue, ravie de vous retrouver. Et pour évoquer l'Assemblée générale de l'ONU, nous sommes aujourd'hui en studio avec Bernard Millet. Bonjour.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé des opérations de maintien de la paix et président de l'Association française pour les Nations Unies. Nous sommes également en ligne avec Guillaume Devin. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de sciences politiques à Sciences Po Paris et vous avez co-dirigé un ouvrage sur l'Assemblée générale des Nations Unies aux presses de Sciences Po en 2020. Merci également de nous avoir rejoints. Et tout d'abord, je vous propose d'écouter un extrait de l'intervention d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, à l'ouverture des débats de l'Assemblée générale. C'était il y a quelques heures à New York.
Our world is in peril.
Notre monde est en péril et paralysé. Les divisions géopolitiques minent le travail du Conseil de sécurité, minent la loi internationale, la confiance de la population dans les institutions démocratiques et toutes les formes de coopération internationale. Nous ne pouvons pas continuer comme cela. Les relations internationales semblent aller vers un monde divisé en 2 groupes. Maintenant, nous risquons d'aboutir à un monde sans aucun groupe. Sans coopération, sans dialogue, sans résolution commune des problèmes.
Alors Antonio Guterres a aussi évoqué un dysfonctionnement mondial colossal. Bernard Millet, c'est une déclaration plus forte que celle qu'on entend habituellement à cette tribune, mais est-ce qu'elle ne sonne pas comme un cri d'alarme, un aveu d'impuissance même ?
Ça correspond à une situation aujourd'hui qui est plus que difficile. Hein. Depuis des années déjà, il y avait des tensions, mais le 24 février, l'invasion de l'Ukraine a créé aujourd'hui des clivages qui sont pour l'heure très importants, radicaux, et des tensions dans l'ensemble du monde. Hein. 2 blocs, ce que dit Guterres, et des
et
pays
du
Sud, et des pays du Sud qui sont dans une situation d'incertitude. Macky Sall avait très clairement dit qu'il ne voulait pas que l'Afrique soit prise dans une nouvelle guerre froide. Donc ça, c'est une réalité et je pense qu'Antonio Guterres a raison d'alerter le monde.
Guillaume Devin, est-ce qu'on peut échapper à cette logique de fragmentation évoquée par le secrétaire général ou est-ce que l'Assemblée générale peut justement permettre de commencer à recoller un peu les morceaux ?
Alors d'abord, c'est pas pour nuancer ou tempérer le constat alarmant du secrétaire général, mais il est dans son rôle. Hein. Il est dans son rôle, c'est-à-dire son rôle d'alerte et son rôle qui consiste à mobiliser au maximum les diplomaties pour que celles-ci agissent. Alors maintenant, à l'Assemblée générale, il faut bien distinguer 2 types d'exercices. Un exercice de diplomatie publique qui a commencé avec les grands discours, etc. Et là, la seule question qui est intéressante à poser, c'est à qui s'adressent les représentants des États. Hein? Bon, si vous regardez les premiers discours, Bolsonaro, Erdogan, et puis la tradition d'ailleurs bien établie, ces gens-là n'ont pas grand-chose à dire de nouveau à leurs collègues diplomates, en tout cas de choses que l'on ne sache, ils s'adressent essentiellement à leurs opinions publiques.
Surtout Bolsonaro, qui
Bolsonaro,
va aller devant les urnes très prochainement.
Mais même Erdogan, qui met en avant son pays comme le seul capable de mettre autour de la table les Ukrainiens et les Russes, etc. etc. Donc, Cet exercice-là n'est pas inintéressant, mais il faut le prendre pour ce qu'il est. C'est un exercice de diplomatie publique largement tourné vers les opinions publiques nationales.
Alors en coulisses, est-ce que la G...
Par contre, en coulisses et dans les couloirs, se déroule une diplomatie formelle qui, elle, peut être importante. Elle est bilatérale, elle est plurilatérale, c'est-à-dire par petits groupes, et elle peut largement favoriser les éléments de convergence et en tout cas permettre le dialogue d'être plus productif.
En tout cas, depuis le début de la guerre en Ukraine, le Conseil de sécurité est paralysé évidemment par le droit de veto russe. L'ONU se trouve dans l'incapacité de faire respecter le droit international. Alors Bernard Millet, est-ce que les Nations Unies peuvent fonctionner quand les grandes puissances ne sont pas d'accord entre elles?
Mais là encore, Guillaume Devin a eu raison dans ce qu'il a dit. Sur le Conseil de sécurité, il faut tempérer. Le Conseil de sécurité est totalement bloqué sur l'Ukraine, sur la Syrie, sur la Libye, l'a été sur la Corée du Nord, mais il continue à fonctionner sur les autres dossiers. On renouvelle des opérations de maintien de la paix, il y a des discussions qui continuent à se tenir en son sein, et tous les pays y siègent. Donc il faut, je crois, faire un petit peu la différence, et ce Conseil de sécurité, il était déjà bloqué avant. Il l'était sur la Syrie et sur la Libye depuis un bout de temps, et sur le Yémen. Donc je crois qu'il faut toujours être attentif à ne pas prendre uniquement sur l'instant, mais s'inscrire dans la durée.
Mais néanmoins, c'est quand même le conflit en Ukraine qui préoccupe le plus le monde aujourd'hui, avec cette menace nucléaire, avec la crise de l'alimentation mondiale. Et est-ce que cette paralysie du Conseil de sécurité, Guillaume Devin, a entraîné finalement le renforcement du rôle de l'Assemblée générale avec ces votes qui ont eu lieu?
Oui, d'abord, je ne suis pas sûr que le conflit sur l'Ukraine soit la priorité des priorités, notamment pour un certain nombre de pays du Sud. Enfin, c'est...
Qui souffrent pourtant des conséquences du conflit.
Oui, mais des conséquences indirectes pour les pays du Sud. Ce qui compte surtout, c'est que l'on se préoccupe de tous les conflits, de tous les défis, et qu'on cesse une politique qui, souvent du côté occidental, il faut bien le reconnaître, a été une politique du deux poids, deux mesures. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'au sein du Conseil de sécurité, comme l'a dit Bernard Millet, il y a tout un tas d'autres dossiers qui continuent à être traités, et ce n'est pas... au Conseil de sécurité, en tout cas au moment où nous parlons, ce n'est pas au Conseil de sécurité qu'on pourra trouver une solution au conflit ukrainien.
Et est-ce que ça peut être au sein de l'Assemblée générale? Parce que au fil des votes qui ont lieu au sujet de l'Ukraine, le cercle des pays qui ne veulent pas choisir entre, disons, la Russie et les Occidentaux s'est agrandi. Bernard Millet, comment expliquer cela alors même que les preuves de crimes de guerre perpétrés par les Russes en Ukraine s'accumulent?
Non, mais l'Assemblée générale a quand même pris des décisions. Tout de suite, après l'invasion russe, il y a eu une résolution dénonçant l'attitude russe. Deuxièmement, il y a eu une seconde décision excluant Moscou du Conseil des droits de l'homme. Et enfin, ça c'est là, on montre la volonté à la fois des pays, des petits pays, des pays modestes, une volonté de peser ou de faire valoir leur point de vue sur l'importance des Nations Unies et sur le rôle que le Conseil de sécurité jouait, en imposant maintenant l'obligation pour les membres permanents du Conseil de sécurité qui usent de leur droit de veto de venir le justifier auprès de l'Assemblée générale lorsque tout est bloqué.
Alors justement, cette réforme du Conseil de sécurité, c'est le serpent de mer. Il y a eu effectivement cette réforme le 26 avril dernier sur l'utilisation du droit de veto. Selon vous, Guillaume Devin, est-ce que cette réforme va assez loin? Est-ce que le privilège dont jouissent les 5 membres permanents du Conseil de sécurité est justifié? Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin?
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le lieu légitime pour la grande majorité des États membres des Nations Unies, c'est l'Assemblée générale. C'est la tribune mondiale, c'est ce qui exprime le mieux ce qu'on appelle dans le langage journalistique la communauté internationale. C'est un forum sans pareil, puisque vous l'avez dit dans votre présentation, les États sont situés sur un pied d'égalité, un État, une voix. Pour la grande majorité des États, l'Assemblée générale est un lieu essentiel. Et on a le sentiment parfois que les diplomaties occidentales n'ont pas vraiment compris l'importance de ce lieu pour les sans-grades, pour ceux qui ne siègent pas au Conseil de sécurité. Récemment encore, dans l'entourage du président Macron, j'entends dire, rapporté d'ailleurs par votre antenne, qu'on considère que l'Assemblée générale est un lieu où l'on se compte. Mais c'est faire fausse route. Ce n'est pas un lieu où l'on se compte, c'est un lieu qui compte. C'est là toute la grande différence, et il faudrait que la diplomatie des grandes puissances notamment le prenne en compte. C'est à l'Assemblée générale qu'on peut avancer vers la négociation d'un certain nombre de points qui peuvent faciliter, je dirais, la coopération internationale en des temps aussi difficile que maintenant.
Sauf que les résolutions de l'Assemblée générale, Bernard Millet, ne sont pas contraignantes. Est-ce qu'il faudrait changer cela ?
Alors, si vous voulez, je tempère. C'est vrai qu'on est dans une logique, ça ne changera pas dans l'immédiat, mais à l'Assemblée générale, qui est, comme le dit Guillaume Devin, le lieu de la légitimité, de l'inclusivité de tous les pays, il y a des décisions, des accords essentiels qui ont été pris. Le sommet du millénaire sur les objectifs du développement durable, la mise en œuvre des grandes conventions, conférences de Rio sur la diversité, le changement climatique, le pacte sur les migrations, ça se passe au sein
de l'Assemblée générale
ou dans des enceintes qui sont celles, voilà. Mais si elles arrivent et elles impulsent des décisions, c'est des conventions, c'est des textes qui ont une valeur obligatoire en tant que telle, mais qui sont concertés dans cette instance. Donc c'est pas une instance inutile, bien au contraire. Je pense qu'il faut la réhabiliter
et la renforcer.
Et la renforcer parce que tous les pays peuvent y parler avec un droit égal.
Alors, les présidents russes, chinois et indiens ne sont pas présents à New York. C'est, d'après vous, Guillaume Devin, une manière de dire le peu d'estime qu'ils placent dans l'institution onusienne telle qu'elle fonctionne actuellement. C'est un message politique de ne pas être là en cette semaine cruciale.
Je ne sais pas, je ne suis pas dans la tête de ces autocrates, mais
sachant qu'ils sont déplacés à Samarcande pour l'organisation de la coopération de Shanghai la semaine dernière.
Probablement qu'ils n'ont pas envie de se livrer à l'exercice de diplomatie publique dont je parlais tout à l'heure, mais cela ne retire rien au fait qu'ils accordent de l'importance aux autres exercices de diplomatie plus discrète et informelle qui se déroulent aux Nations Unies ou autour des Nations Unies. Donc, de ce point de vue, je pense que leur absence ne doit pas être considérée comme un élément important.
Alors, Guillaume Devin l'a dit, hein, au-delà des discours à la tribune, il y a ces rencontres entre diplomates. Bernard Millet, le fait de se rencontrer en chair et en os après 2 ans de Covid, de téléconférence, c'est important, c'est essentiel même ? Ça change les choses.
À la fois, c'est essentiel que des dirigeants puissent se rencontrer, et c'est une occasion unique, l'Assemblée générale, parce que les autres groupes sont plus restreints. Vous avez le G7, le G20 ou autre. Là, il y a tous les pays. Deuxième chose, c'est l'occasion pour les organisations régionales. Il ne vous a pas échappé que la CEDEAO a prévu de se réunir pour traiter du problème au Mali des soldats ivoiriens.
Donc il y a otage.
Chaque fois, il y a des occasions, des éléments qui sont importants. Et puis, il y a les grands dossiers que Antonio Guterres a présentés, c'est-à-dire lancer un nouvel agenda pour la paix, pour voir ce que doit être le rôle de l'ONU sur la résolution des conflits, le peacekeeping, le peacebuilding, etc. Il va parler du sommet du futur, là aussi, quels sont les grands risques, les grands défis à venir, et la commission qu'il a mise en place avec Mme Hélène Johnson-Sirleaf et M. Löfven, ancien Premier ministre suédois. Donc il y a des idées qui sont lancées, des projets qui se préparent pour essayer de renouveler l'action de l'ONU et de la renforcer.
Et il y a quand même une remise en cause de l'ordre occidental, disent-ils, instauré au sein de l'ordre mondial, par notamment les Russes et les Chinois l'ont formellement remise en cause la semaine dernière à Samarcande. Bernard Millet, est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que l'ONU est dominée toujours aujourd'hui par les forces occidentales?
Alors, elle est aujourd'hui, tous les pays peuvent s'exprimer, on voit que les blocs existent. Il y a eu un temps où vous aviez la guerre froide, vous aviez deux blocs au sein du système des Nations Unies. Aujourd'hui, les oppositions se renforcent, mais il est vrai que la charte des Nations Unies a été pensée par les vainqueurs de l'année dernière, dont les soviétiques à l'époque Staline, il ne faut pas se trouver, et que les valeurs qui sont portées ou les principes sont des principes respectueux de tous les pays qui fondent l'ordre international. Et là-dessus, il y a un accord unanime. Je veux dire que le respect des frontières, l'intégrité des frontières,
enfin,
le respect de la souveraineté nationale...
Enfin, il n'a pas été respecté par la Russie qui est membre permanent.
Mais M. Poutine a dit il y a peu de temps qu'il voulait un multilatéralisme qui respecte le droit international. Dans le même temps, on sait depuis le début que les États-Unis sur l'Irak, que la Chine sur l'arrêt sur les îlots de la mer de Chine ou que Poutine sur l'Ukraine ne le respectent pas. Mais tous professent l'idée que le droit international doit être sacré.
Alors s'il y a un domaine qui concerne le monde entier et où l'ONU pourrait jouer un rôle majeur, c'est bien celui de la lutte contre le réchauffement climatique. Le secrétaire général de l'ONU n'a pas manqué d'y faire référence tout à l'heure à la tribune. On écoute Antonio Guterres.
We have a rendezvous with climate disaster.
Nous avons un rendez-vous avec un désastre climatique. Je l'ai récemment vu de mes propres yeux au Pakistan, où un tiers du pays est submergé par une mousson sous stéroïdes. On le voit partout, aucune région n'est épargnée. Et nous n'avons encore rien vu. Les étés les plus chauds d'aujourd'hui seront peut-être les étés les plus frais de demain. Il est grand temps d'aller au-delà des discussions interminables.
Alors Guillaume Devin, on a évoqué le blocage complet du Conseil sur la question de la guerre en Ukraine. Est-ce que la diplomatie écologique pourrait faire l'objet de convergences? Pensez-vous qu'elle pourrait avoir un rôle pour ressouder les nations entre elles?
Bon, d'abord, je voudrais revenir en deux mots sur ce que vous disiez tout à l'heure. Je crois que quand même dans l'histoire des Nations Unies, il y a eu un ralliement massif, parfois contestataire, mais un ralliement quand même massif de l'ensemble des pays qui sont membres actuellement de l'ONU autour de la Charte des Nations Unies. Cette Charte des Nations Unies que l'on connaît mal souvent dans le grand public, que l'on ferait bien de relire et qui est d'une actualité étonnante et surtout que l'on devrait respecter. C'est, je crois, avant d'envisager tous les projets de réforme, un exercice salutaire qui consisterait à revenir au texte de la charte et à essayer de le respecter le plus scrupuleusement possible.
Alors, il nous reste qu'une minute.
Alors ensuite, sur la diplomatie écologique, oui, évidemment que c'est un lien qui peut être fait entre le Nord et le Sud, pour autant que le Nord prenne en compte les revendications du Sud, c'est-à-dire aide à la transition écologique, aide à l'adaptation aux nouvelles conditions climatiques, dans la mesure où c'est le Nord qui est largement responsable de la situation. Et là encore, pas de deux poids, deux mesures. Sinon, le Sud ne nous suivra pas, sur ce dossier comme sur d'autres.
Bernard Millet, en 10 secondes...
J'adhère pleinement à ce que Guillaume Devin vient de dire.
Et vous êtes confiant sur l'avenir de l'ONU?
Je pense que oui, parce qu'il n'y a pas d'alternative.
Je vous remercie beaucoup à tous les deux. Bernard Millet, ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé des opérations de maintien de la paix et président de l'Association française pour les Nations Unies. Guillaume Devin, professeur de sciences politiques à Sciences Po Paris, co-auteur d'un ouvrage sur l'Assemblée générale des Nations Unies, paru aux presses de Sciences Po en 2020. Claude Battista à la réalisation. Et merci à Éléonore Kranich qui m'a aidé à préparer cette émission. À demain.